Donc, alors, dès le commencement des années 1880, beaucoup de jeunes gens ressentent un sentiment de décadence qui prend la forme d'une conviction de la disparition prochaine de la civilisation européenne. Les écrivains décadents, grâce à une écriture subversive souvent inspirée de leur propre mode de vie original, on pense à Oscar Wilde pour l'Angleterre, ou à Jean Lorrain pour la France, tournent le dos aux valeurs en vigueur et remettent en question l'ordre établi. C'est d'ailleurs contre l'idée même de nature qu'ils en ont. Leur littérature est marquée par la conviction qu'il faut refuser les déterminismes. Comme le souligne Jean-Pierre Roux dans son ouvrage « L'imaginaire décadent », il faudra pour bien des écrivains de la fin du siècle, je cite, « fuir la nature, refuser autant que possible les lois biologiques de l'espèce ». Aussi, sur le plan social, la fin du siècle voit naître plusieurs revendications provenant des minorités, sexuelles notamment. Stigmatisés par le développement de la psychopathologie sexuelle et par le discours moraliste de l'époque, les homosexuels commencent à afficher plus ouvertement leur mode de vie et à le faire valoir. Dans l'invention de la virilité moderne, George Moss, qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, soutient que les hommes efféminés, les femmes masculines, à partir des années 1990, s'affichent de plus en plus audacieusement et, malgré leur nombre restreint, ne cessent de défier le stéréotype. On peut penser aussi que le personnage du dandy, de chair ou de papier, a contribué à préparer les revendications des minorités sexuelles qui s'intensifient dans les deux dernières décennies du siècle. Le goût des décadents pour le dévoiement donne en effet lieu à une inversion fréquente des identités sexuées, mais aussi à des contre-types de l'idéal masculin. Cette littérature regorge de héros homosexuels, travestis, nerveux, hystériques, bref, à des personnages que le discours toxique considère somme toute comme contre-nature. Donc, je désire mesurer la répercussion de cette crise des valeurs hégémoniques sur la figure du jeune homme en étudiant sa représentation dans la littérature décadente de la fin du 19e siècle français, comme le dit mon titre, à partir de deux romans qui marquent à peu de choses près les époques du commencement et de l'essoufflement du mouvement littéraire décadent. Donc d'abord, Monsieur Vénus de Rachild, publié en 1884, qui est aussi l'année de publication d'À rebours de Huysmans. Et ensuite, Monsieur de Focas de Jean Lorrain, publié en 1901. Donc j'aimerais penser aujourd'hui le jeune homme androgyne comme la représentation privilégiée dans cet imaginaire déliquescent pour problématiser le stéréotype masculin. La valorisation des figures d'Antinous et d'Astarté, deux prototypes antiques de l'androgyne, érige, semble-t-il, un autre type de modèle masculin aux contours mouvants. Au cœur de l'inquiétude et du pessimisme fin de siècle, né d'un antipositivisme, un nouvel idéal masculin percerait donc. Je pense qu'il se présente comme une réelle critique de l'indistinction et de l'inséparabilité des notions de sexe et de genre, remettant de facto en question les concepts de normes et de nature. Alors, afin de montrer que l'idée de la beauté décadente s'oppose aux stéréotypes masculins modernes, je vais tenter de voir en quoi les représentations antiques privilégiées par les écrivains fin de siècle s'éloignent de celles qui ont inspiré l'émergence du stéréotype moderne. Donc, je voudrais débuter par un portrait des jeunes hommes qui nous intéresse, en commençant par le Jacques Silvert de Monsieur Vénus. Au début de Monsieur Vénus, Jacques Silvert emprunte donc non seulement le prénom d'une femme, mais aussi son identité, parce que à Raoul de Vénérande, Raoul avec un E, étonné de découvrir à son arrivée chez le fleuriste un homme enseveli sous les fleurs, Jacques répond « Pour le moment, Marie Silvert, c'est moi. S'il n'est pas encore tout à fait femme, Jacques Silvert présente néanmoins, dès le départ, un écart par rapport au stéréotype de virilité. On nous le décrit ainsi. Il regardait cet homme comme implorent les chiens souffrants, avec une vague humidité sur les prunelles. Le menton, à fossette, d'une chair unie et enfantine, était adorable. » Le cou avait un petit pli, le pli du nouveau-né qui engraisse. La main large, la voix boudeuse et les cheveux plantés drus étaient en lui les seuls signes révélateurs du sexe. Alors, il a 24 ans, mais il a l'air d'en avoir 18. Il est comparé d'abord à un chien implorant, ensuite à un enfant et finalement à une femme, à une habile femme du métier. Dans les premiers temps, Jacques Silver est ignorant de l'ambivalence de son physique et de son comportement. Lorsque Raoul lui fait remarquer l'étrangeté pour un homme d'être fleuriste, car enfin, il devrait casser des pierres, ce serait plus naturel, pense-t-elle. Il objecte que sa profession n'empêche pas d'être un homme. Alors qu'on ne voit que très rarement, pour ne pas dire jamais, la nudité des hommes dans les romans du 19e siècle, Jacques Silver, lui, se montre complètement nu lors de la scène du bain. Cette nudité serait sans l'ombre d'un doute celle d'une jeune fille si la pilosité et le sexe de Jacques ne venaient jeter une ambiguïté si troublante. Le texte le décrit ainsi, digne de la Vénus Callipyge, cette chute de rein se redressait, ferme, grasse, en deux contours adorables. Les cuisses, un peu moins fortes que des cuisses de femme, possédaient pourtant une rondeur solide qui effaçait leur sexe. Entre la coupure de l'aisselle et beaucoup plus bas que cette coupure, dépassaient quelques frisons d'or s'ébouriffant. Jacques Silver disait vrai, il en avait partout en parlant de ses poils blonds. Il se serait trompé, par exemple, en jurant que cela seul témoignait de sa virilité. Donc, en plus de ses attributs physiques féminins, le caractère de Jacques n'incarne pas, lui non plus, la masculinité. Donc, on nous dit qu'il est passif, qu'il prend la pose avec langueur, qu'il est plus lâche que sa sœur et qu'il a peur de tout. Nous pourrions voir en Jacques la réincarnation de l'éphèbe grec ou du puer romain, jeune esclave à la beauté délicate. La beauté émouvante du corps n'est pas le propre de la femme dans le roman de Rachilde, mais bien celui du jeune homme. Comme le mentionne Jean-Paul Thuillier dans le premier tome de l'histoire de la virilité, pour les poètes de la Rome antique, ou leur narrateur en tout cas, c'est le beau puer qui serait en haut de l'échelle des désirs érotiques. À ce sujet-là, Rachel semble avoir beaucoup aimé cette figure du jeune esclave soumis. Dans Notre-Dame des Rats, par exemple, l'esclave Sangor est l'objet de désir littéralement de son maître. Il est pris pour une poupée de cire destinée au leurre de la sensualité. Il a une épaule de garçon ou de fille. Raoul de Vénérande devient donc obsédé de ce mâle frais et rose comme une fille et en fait sa proie, sa possession absolue. Elle jette son dévolu sur le jeune homme, y voyant l'occasion d'un jeu nouveau, d'un échange de rôles sexuels qui lui donnerait une satisfaction que les configurations amoureuses traditionnelles échouent à lui procurer. Mais il y a plus chez Raoul de Vénérande et chez les écrivains décadents en général qu'une recherche effrénée de plaisir. Il y a volonté de refaire une création mal faite, de pallier une réalité objective, aliénante, marquée par un conflit des sexes. Raoul se demande si, c'est elle qui le dit, si elle n'a pas créé après Dieu un être à son image. Elle réussit en fait, dans une certaine mesure, à corriger l'erreur que la nature a commise avec Jacques, ce beau mâle de 21 ans dont l'âme aux instincts féminins s'est trompée d'enveloppe, dit-elle. Le projet décadent de redéfinir l'idée de nature est ici exprimé. Gérard Pellet le confirme. Le milieu où s'enferment ces personnages représente peut-être moins une négation de la nature et du monde réel qu'une tentative de réparation et de restauration. Nous y viendrons, la redéfinition du concept de nature passe invariablement par une célébration artistique à la fin du siècle. Après leur mariage, Raoul se fait appeler Monsieur Silver et Jacques se fait appeler Madame Silver. En vérité, la mission du couple consiste à s'unir de plus en plus, est-il dit, dans une pensée commune, la destruction de leur sexe. La représentation modèle, vénérée d'abord par la jeune femme puis prise comme exemple par le jeune homme, est Antinous, éphèbe grec à la beauté extraordinaire, quoique peu robuste, ce qui lui vaut d'être qualifié d'efféminé. Raoul possède d'ailleurs son buste dans sa bibliothèque. C'est sous l'égide de nombreux bustes et tableaux que le jeune homme apprend à devenir un bel homme, car pour plusieurs écrivains décadents, être un homme est une toute autre chose que pour leurs contemporains. Le 19e siècle, au demeurant, est fortement influencé par le canon esthétique masculin établi au siècle précédent, dont on a dit quelques mots ce matin. Cet idéal abstrait du beau, écrit Moss, se fonde sur la redécouverte de la statuaire grecque que l'on pouvait admirer dans des collections célèbres et surtout grâce aux descriptions et aux gravures. Moss montre bien l'influence de certains intellectuels du 18e siècle sur la formation du stéréotype. La description des statues grecques que fait Winckelmann, par exemple, met de l'avant un idéal de beauté unique, idéal qui deviendra prescriptif au cours des siècles à venir. Dans Monsieur Vénus comme dans Monsieur de Focas, l'éducation des jeunes hommes participe d'un culte artistique. La beauté se trouve avant tout dans l'art, mais pas tant dans les représentations de guerriers ou d'athlètes grecs que dans celles des androgynes ou d'hermaphrodites, dont les mythes entretiennent certaines ressemblances. Il s'avère que les occurrences dans la mythologie ou la statuaire antique du jeune homme à la beauté aux accents féminins ne manquent pas. Pensons en plus d'Antinous à Adonis, Narcisse, Alcibiade et même Dionysos. Bien que Winckelmann souligne lui-même l'idéalité conférée par les Grecs à ces figures combinant la beauté féminine au sexe masculin, d'ailleurs dans son Histoire de l'art, il dit que la combinaison des beautés et des propriétés des deux sexes sont des productions idéales. Il n'empêche que, je cite Moss, les statues que Winckelmann jugeait exemplaires représentaient surtout de jeunes athlètes dont le corps et l'attitude expriment la puissance et la virilité. Ces caractéristiques, sauvegardées par l'idéal masculin modèle, sont celles-là même que semblent rejeter les écrivains décadents. Au contraire, ceux-ci mettent plutôt en valeur dans leur récit ce que le stéréotype moderne met de côté, langueur, délicatesse, manière affectée. Que ce soit par refus du réel, par goût de l'étrange ou dans le but de « retourner comme une arme », selon le mot de Moss, l'idéal masculin contre la virilité normative, les décadents s'inspiraient des êtres idéaux que sont les hermaphrodites ou les androgynes antiques pour finalement mettre de l'avant une nouvelle norme de masculinité. Le processus de sublimation des traits féminins est déjà complété chez Monsieur de Focas dans le roman éponyme de Lorrain. Monsieur de Focas était un frêle et long jeune homme de 28 ans à peine, est-il décrit, à la face exanguë et extraordinairement vieillie, sous des cheveux blonds, crépelés et courts. Son apparence a donc bel et bien quelque chose de masculin, mais quelques caractéristiques trahissent une effémination. Par exemple, ses mains sont décrites ainsi, attachées à un frêle et blanc poignet. Sa main est délicieusement pâle et transparente, main de princesse et de courtisane. Son teint est pâle et maladif, et son visage imberbe. Frêle et de complexion délicate, à 28 ans, il a l'air d'en avoir 40, peut-être même 100, et peut-être même 100 000 ans. Le duc de Vellecombe, quant à lui, un de ses amis, ressemble plus au jeune et faible saint qu'au dandy valétudinaire qu'est Focas. C'est un très beau cavalier de 23 ans avec une figure douce et triste. Dans ce roman, les trois principaux personnages masculins sont des esthètes dandys. Frédéric Bonneron, dans son ouvrage « L'androgyne décadent », souligne qu'à la fin du siècle, l'esthète et le dandy trouvent peut-être en l'androgynie leur point de convergence, le plus net. Si l'esthète est une effémination indiscutable, il en va de même du dandy. Son côté féminin semble encore plus marqué vers 1900 qu'il ne l'était à l'époque romantique. Déjà, on retourne un petit peu plus loin dans le siècle. En 1845, Barbé d'Aurevilly écrivait dans Du dandysme et de Georges Brumel, nature double et multiple d'un sexe intellectuel indécis, où la grâce est plus grasse encore dans la force et où la force se retrouve encore dans la grâce, androgyne de l'histoire, non plus de la fable, et dont Alcibiade fut le plus beau type chez la plus belle des nations. Comme nous l'atteste Barbé d'Aurevilly, l'Antiquité, en ces temps-là, est le réservoir de tous les idéaux. Donc, à un moment, une valse dansée par Jacques et Raoul accomplit le moment très bref, mais saisissant de la fusion complète des deux sexes. voici comment elle est décrite. Il ne cherchait pas à soutenir sa danseuse, mais il ne formait avec elle qu'une taille, qu'un buste, qu'un être. À les voir pressés, tournoyants et fondus dans une étreinte, on imaginait la seule divinité de l'amour en deux personnes, l'individu complet dont parlent les récits fabuleux des Brahmanes, deux sexes distincts en un unique monstre. Mais l'être complet ne peut trouver sa réalisation parfaite qu'en une image inanimée et impérissable, qu'en une poupée abolissant tout à fait l'idée de nature pour ne retenir que l'artifice. À la fin du roman, en effet, Raoul entreprend d'immortaliser le corps de Jacques qui meurt à l'issue de son affrontement avec le baron. Elle le transforme en une poupée grandeur nature, en, citation, « un mannequin de cire revêtu d'un épiderme en caoutchouc transparent. Les cheveux roux, les cils blonds, le duvet d'or de la poitrine sont naturels. Les dents qui ornent la bouche, les ongles des mains et des pieds ont été arrachés à un cadavre. » Vous l'avez compris, celui de Jacques. « Les yeux en émail ont un adorable regard. Il n'est possible, dans M. de Focasse, de guérir du mal de l'âme qu'à travers l'art, qui est le remède absolu. » Deux œuvres ici, en particulier, tiennent lieu de référence esthétique, la statuette du peintre Claudius Étale et la statue d'Antinous. Aux éléments féminins de la déesse Astarté, les bras frêles, les seins ronds, sont assortis des éléments masculins, le torse plat, la hanche fuyante et le ventre plat, aboutissant à une conjugaison du masculin et du féminin. Monsieur de Focasse, comme l'a autrefois été le duc de Vellecombe, est captif d'un regard, d'un introuvable regard, le regard même de la déesse qui trouble et hante le sommeil de ses nuits. Ce regard, il le cherche partout dans les prunelles des jeunes gens. Mais en fin de compte, aucun être en chair et en os, ni même peint, ne peut reproduire en Focasse l'intense fascination esthétique ressentie devant l'androgynie de l'Antinous de Plâtre, contemplé un jour au Louvre. La sculpture d'Antinous devient, comme dans Monsieur Vénus, la représentation idéale de la beauté. Pendant tout le roman, cette perfection formelle du corps vivant est recherchée, mais en vérité, elle ne se retrouve chez aucun être humain. Les deux romans, en cela, représentent très bien la préoccupation de l'esthète décadent, qui s'enferme, comme nous dit Jean Pierrot, dans un univers intérieur dont il fait un paradis d'art, voué à la contemplation esthétique. Le culte de l'art est, dès lors, favorisé au détriment des autres aspects de la vie. Les personnages deviennent parfois eux-mêmes œuvres d'art, comme c'est le cas dans Monsieur Vénus, ou est intronisé Jacques comme dieu du troisième sexe. C'est dans ce contexte, je cite Régis Revenin, qu'émerge à la fin du siècle la théorie du troisième sexe, qui repose sur l'idée que l'on n'est pas vraiment un homme du point de vue social lorsque l'on décide, en tant qu'individu biologiquement de sexe masculin, de se comporter délibérément comme une femme, en inversant les rôles sexuels et les identités sexuées. Postulé par nombre de personnages rachildiens, l'existence de ce troisième sexe idéal serait un amalgame des caractéristiques physiques de chaque sexe. Même si Raoul de Vénérande se dote de caractéristiques masculines, alors pouvoir, autorité et indépendance, il reste que, comme on a souvent manqué de le voir, d'autres qualités sont jugées supérieures dans le texte. Ces qualités, la grâce, la beauté, le pouvoir esthétique, d'évocation esthétique du corps, c'est Jacques qui les a et non Raoul. Aux yeux de tous, Jacques devient poème, plus même Jacques devient Dieu. L'idole d'une adoration esthétique toute décadente à l'endroit du jeune homme au sexe ambigu. C'est pour le plaisir de l'art qu'il se prend à être une femme. Une fois transformé en mannequin au sexe indéterminé, en objet d'art idéal, la divination de Jacques est complète. Par là, il dépasse peut-être Antinous et les autres statues grecques à connotation féminine, sinon il les égale. Dans Monsieur de Focasse, en contrepartie, nul être vivant n'a le pouvoir d'attraction esthétique d'Antinous. Le personnage principal reste, jusqu'à la toute fin, obsédé par le jeune androgyne qui évoque possiblement, comme certains l'ont fait remarquer son homosexualité. Quoi qu'il en soit, le sous-titre de Monsieur de Phocace, Astarté, nous aiguille encore sur l'importance que prennent à la fin du siècle les représentations qui opèrent l'union de l'art et de la sexualité. Indiciel, entre autres, du refus ambiant des déterminismes, la figure du jeune homme androgyne met à mal le stéréotype masculin, parce qu'il bat en brèche les critères normatifs de la masculinité et de la féminité, atteste Moss. Dans leur roman, les écrivains décadents accompliraient ce qui est difficilement réalisable dans la réalité, un être défiant la nature, une création esthétique qui rendrait compte du caractère arbitraire et irréconciliable des stéréotypes sexuels. Autrement dit, l'androgyne, presque toujours sous la forme du jeune homme efféminé, tenterait d'accomplir dans les textes la volonté décadente de corriger le concept de nature. Devenant à l'occasion objet d'art lui-même, il incarne la supériorité de la création artistique sur la création naturelle. Joséphin Péladan écrit en 1891 dans « De l'androgyne » qu'être beau, c'est appartenir à un troisième sexe, impassible, intangible. Le jeune homme apparaît en effet comme l'ersatz d'un idéal sexuel qui ne peut s'accomplir parfaitement que dans l'art. Donc, pour conclure, il est vrai que l'on pourrait interpréter la résurgence des formes androgynes comme le fantasme d'une résolution de la crise des rapports entre les sexes. La crise du genre qui sévit dans la deuxième partie du siècle peut être attribuée, en partie, à la sévérité des modèles normatifs, qui n'admet aucun degré de déviation. Il s'avère cependant que la figure du jeune homme androgyne rend aussi compte, nous dit Monneron, des schèmes esthétiques profondément ancrés dans les mentalités occidentales qui se font en faveur du sexe masculin, puisque l'essence masculine reste intellectuellement valorisée, alors que la forme féminine reste, elle, esthétiquement valorisée. S'il peine donc à émanciper le stéréotype féminin, il reste que ce symbole décadent pourrait avoir réussi, nous semble-t-il, à soustraire le personnage narratif du jeune homme au déterminisme biologique et, partant, à le retirer de l'étroit moule du stéréotype masculin moderne. La valorisation des jeunes hommes efféminés porterait atteinte au code de la masculinité et en redéfinirait les termes. Soutenu par les revendications homosexuelles de l'ère du temps et porté par une crise plus générale de la masculinité, les décadents auront ainsi saisi l'occasion d'offrir une alternative au paradigme masculin dominant. Merci.